Je mets le micro là, vous m'entendez bien, ça va ? Bonjour à tous, si ça vous va, avant de commencer mon message, je vous propose de prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu et d'appeler son esprit. Seigneur, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble ce matin. Merci aussi pour ta parole que tu nous donnes. Si on se réunit ici, c'est parce qu'on croit fermement que ta parole est là pour nous parler, est là pour nous enseigner. Et je te prie de nous envoyer ton esprit pour qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse la méditer. Et je te prie aussi sur mes mots pour que je sois clair, distinct et que tu puisses parler à travers moi. Amen. Tu me dis quand tu as mis le... C'est la zapette qui ne marche pas. Ah, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Sachez que c'est une question qu'on pose souvent. Comment ça va ? Parfois, ça ne va pas. C'est un peu le cœur lourd par que nous, en tout cas, on vient. On s'est fait cambrioler la semaine dernière. On était en vacances et d'un coup, on se fait appeler par la gendarmerie. Rappelez-nous vite, il y a un truc qui ne va pas. On se dit, zut, c'était nos vacances. Pourquoi ça arrive à ce moment-là ? C'est mieux si je rapproche. Hein, ouais. Et on se dit, c'est pas juste. Pourquoi on se fait cambrioler ? Pourquoi est-ce qu'on vient chez nous, qu'on retourne notre appartement, qu'on pique tous les objets de valeur ? Et un peu dans nos questionnements, on pourrait se dire, mais Dieu, t'étais où ? On te fait des prières, on se remet entre tes mains, on prie pour ta sécurité, pour notre sécurité, et on veut remettre notre vie entre tes mains. Et on peut se poser la question, t'étais où ici ? Donc, j'essaie de vous faire ce message-là, même si j'ai le cœur un peu lourd, et vous partager un peu quelques réflexions, en essayant de trouver un peu de réconfort dans le livre de Job. Alors là, vous dire, mais du réconfort dans le livre de Job, il n'a pas trouvé le bon livre pour en parler. Je vais essayer d'en faire un petit résumé, passer sur plusieurs points clés que j'ai pu trouver dedans. Je vous propose de commencer ça. Déjà peut-être un peu avec un peu de contexte pour placer ce livre. Job, c'est l'un des trois livres de sagesse. On a trois dans la Bible qu'on considère comme tels, Proverbes, Ecclésiaste et Job. Proverbes annonce finalement un ensemble de règles pour dire qu'est-ce que Dieu considère comme juste et qu'est-ce qu'il considère comme mauvais. Avec beaucoup de proverbes sur des règles pour dire « si tu veux avoir une bonne vie, fais ceci. Par contre, si tu fais quelque chose de mal, Dieu te punira. » Et l'Ecclésiaste, lui, va compléter un peu finalement cette règle quand on suit cette lecture en disant que parfois... ça ne se passe pas comme ça. Parfois, le gentil écope la punition du méchant, et c'est le méchant qui récupère les lauriers et devient riche, puissant, influent, etc. Et la conclusion de l'Ecclésiaste, c'est que tout est vanité, tout n'est que fumée. Si on essaye d'attraper le sens de cette question, on a du mal à voir finalement qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et on peut se dire à ce moment-là, d'accord, c'est un peu dommage comme conclusion, comment est-ce que Job peut compléter ce message ? On peut se poser la question, est-ce que c'est un récit fictif ou un récit historique ? Quand on lit déjà l'introduction, il n'y a pas de repère de date, il n'y a pas de repère vraiment de lieu. On parle du pays d'Outz, qui est a priori hors d'Israël. Quand on fouille un peu, grosso modo, c'est quelque part autour de Damas ou quelque part en Édom, donc au sud ou au nord. En conclusion, on ne sait pas trop où est-ce que ça se trouve. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est un récit fictif ? L'intérêt plutôt de l'auteur ici est plus de se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Et donc le livre de Job parle d'un personnage qui s'appelle Job, qui est décrit comme un homme intègre et droit. Et Dieu l'a richement béni durant sa vie. Il avait 10 enfants, 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et d'ânes, et beaucoup de serviteurs. Et je vous propose de commencer la lecture en faisant une petite lecture de ce qui se passe en Job 1. Job perd tout. Verset 6. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur vint aussi parmi eux. L'Éternel dit alors à l'accusateur, « D'où viens-tu donc ? » Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Verset 9. L'accusateur répondit : Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens ? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens. Et on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ses biens sont dans ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Quand on lit déjà cette introduction, on se dit, on a mal lu le texte, là, il y a un problème, Dieu il permet vraiment ça et on continue de lire le texte, alors je ne vais pas vous faire la lecture non plus complète, sinon j'en aurai pour la journée. Mais finalement, verset 14, les bœufs et les ânesses sont volés par les Sabéens et tous les serviteurs qui gardaient ce troupeau sont massacrés. Verset 16, ses moutons et ses chèvres sont foudroyés par la foudre. Verset 17, ses chameaux ont été volés par les Chaldéens. Verset 18, ses enfants sont morts alors qu'une tempête de vent fait écrouler la maison dans laquelle ils se trouvaient. Et ça continue encore au chapitre 2, verset 7. Il écope d'une douloureuse maladie de peau de la tête aux pieds. Donc, a priori, trouver du réconfort quand on lit cette première introduction, lit chapitre 1 et 2, pas terrible. On se dit que finalement on relativise presque en se disant que bon finalement nous ça va, quand on regarde ce que Job subit, pas terrible. On pourrait presque se dire, c'est pas au juste, comme disait Titeuf dans la BD, et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Job doit souffrir comme ça injustement ? Il a rien demandé, Dieu dit lui-même, regarde c'est un homme juste et bon, et pourtant il ne lui arrive que des galères. Et je vous propose finalement, dans ce message que je vous partage, de regarder un peu la structure du livre de Job et de voir quelle conclusion on peut en avoir, quel enseignement on peut en tirer. Et en gardant ça dans notre coin de notre tête, justement cette question, pourquoi Job souffre-t-il injustement ? Et on va essayer d'en trouver les réponses. Le livre de Job commence au début par cette introduction qui est en prose, et ensuite c'est de la poésie. Et durant la poésie, il y a plusieurs personnes qui vont venir discuter avec Job, lui partager des arguments, lui donner des pistes de réponse, et lui va répondre. Et tout cela va se passer en poésie. On va commencer avec le discours d'Eliphas, de Bildad et de Tsophar, qui sont trois de ses amis, qui sont considérés comme étant des éminents savants, et lui partagent un peu la piste de la réflexion sur la base de leur connaissance de ce qu'il y a dans la Bible. Il part d'une hypothèse comme quoi Dieu se base sur la justice pour régner sur le monde, avec la conclusion un peu de on mérite ce que l'on a fait dans sa vie. Il tire ça notamment des proverbes. Si je cite par exemple Proverbe 14, verset 14, « L'homme au cœur perfide sera gavé de fruits de sa conduite, mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. » On n'obtient que ce que l'on mérite, l'homme de bien recevra des bénédictions, le méchant obtiendra des malédictions. Et donc, l'argumentaire de ses amis, c'est un peu Dieu est juste, donc si maintenant, là, on constate bien que Dieu t'a envoyé une punition, ça veut dire que t'as fait quelque chose de mal. Donc, essaye de trouver ce que c'est, et demande pardon, repentis-toi, et à ce moment-là, Dieu sera de nouveau dans ta faveur. Et ça, ils vont le répéter plusieurs fois, et finalement, quand on lit la Bible, c'est ce qu'on trouve. Dans le livre de Josué, si le peuple obéit, le peuple est victorieux quand il combat. Dans le livre des Juges, dès que le peuple fait quelque chose de mal, Dieu les livre aux mains de leurs ennemis. Dans le livre des Rois, si un roi est mauvais, le peuple en souffre. Mais ici, Job va répondre. Lui, il dit « Mais je n'ai rien fait de mal, je suis innocent ». Si maintenant je suis innocent, ma punition elle est injustifiée. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu permet que je souffre ainsi ? La conclusion qu'il ne dit pas, mais qu'on lit à travers les lignes, c'est est-ce que Dieu serait injuste ? Pourquoi est-ce qu'il permet ça ? Je vous propose de lire quelques-uns des versets quand même, parce que je résume quand même ici les passages de Job 33 à 37, qui est assez long. Au niveau de la structure, les trois amis, à chaque fois, vont proposer leur argumentaire. À chaque fois, Job va leur répondre, et ça durant 3 cycles. Donc finalement, il y a donc 9 passages où un ami parle et Job répond. Si je prends donc quelques extraits pour vous donner un peu le sens qui est ici, Job 10, versets 1 et 2, « Dieu, pourquoi t'en prends-tu à moi ?» C'est Job qui parle. « Je suis dégoûté de la vie, je ne retiendrai plus mes plaintes, je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être, et je veux dire à Dieu, ne me traite pas en coupable, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Job, ici, clairement, il exprime son désespoir. Et donc, comme je vous l'ai dit, ses amis vont essayer de lui répondre en lui trouvant une solution, peut-être un peu réchauffée, mais un peu facile à sortir. Au Job 11, versets 13 à 17, « Toi, si tu affermis ton cœur, et si tu tends les bras vers Dieu, si tu abandonnes tes fautes, dont tes mains sont coupables, si tu ne permets pas à la perversité d'habiter sous ta tente, alors tu lèveras la tête, sans avoir honte, tu tiendras ferme, et tu ne craindras rien. Tu oublieras ta peine, son souvenir sera comme une eau écoulée, ta vie sera plus radieuse que le soleil en plein midi, l'obscurité luira comme une aurore. » Mais comme je vous ai dit, Job se considère comme innocent, il n'a rien fait ici. Donc il va répondre, et au fur et à mesure qu'il va leur dire « Non mais je suis innocent, arrêtez de m'accabler ou de me proposer des solutions comme ça », le ton monte dans la discussion. Et au début, on sent que dans la poésie, Job exprime doucement comme quoi il maudit le jour de sa naissance parce qu'il n'a pas envie de s'en prendre à Dieu. Mais plus il avance, plus ses amis essaient de lui faire avouer des crimes qu'il n'a pas commis, et donc il commence un peu à s'énerver, la tension monte. Et donc Job 13 « Quant à vous, mes amis, vous forgez des mensonges, vous êtes tous des médecins incompétents, si seulement vous gardiez le silence, vous feriez leur preuve de sagesse. » Ou Job 19, verset 2, « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous ? Oui, jusqu'à quand allez-vous m'accabler de vos discours ?» Dans les exemples qu'il donne, certains de ses amis lui disent « Mais en fait, on sait que tu es avide, que tu es cupide, que tu ne penses pas à tes serviteurs, » et commence à inventer des charges contre lui, alors que lui n'y peut rien. À la fin, il rejette un peu ses amis, et il s'en prend directement à Dieu, et il lui dit un peu « Bon Dieu, viens t'expliquer si tu es un homme. » À peu près, vous comprenez un peu le principe. Job 27, verset 5. « Loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier souffle, non, je ne prononcerai pas à affirmer mon innocence. » Et Job 31, donc c'est un peu le dernier moment, on va dire, où il clame vraiment son innocence devant ses amis et devant Dieu. « Ah, si j'avais quelqu'un qui veuille m'écouter, voilà mon dernier mot, que le Dieu Tout-Puissant me donne sa réponse. Quant à l'acte d'accusation rédigé par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je m'en ceindrai le front comme un diadème et lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui, aussi digne qu'un prince. » Conclusion finalement de cette grosse partie du livre de Job, la tension monte. On voit ici que Job n'a pas obtenu réponse à sa question. Pourquoi est-ce qu'il souffre ? Il n'a pas de réponse. Et la réponse donnée par ses amis ne lui convient pas du tout, parce que lui ne considère qu'il n'a commis aucune faute. Si on lit même le texte ici, Dieu ne lui reproche pas de faire tous ces remarques, et donc même là, en formulant ses remarques et en exprimant sa détresse, il n'en commet toujours pas d'après le texte. Et donc, comme dit, la fin au chapitre 37, c'est un peu « Ok, Dieu vient, il faut qu'on discute, il faut qu'on s'explique tous les deux. » Donc il prend un peu, il va vraiment vers Dieu un peu au culot en disant « Non, vas-y, descends, ça suffit, voilà, c'est un peu osé. » Je continue le résumé de ce livre avec un nouveau passage, où cette fois-ci c'est un ami surprise qui n'était pas décrit dans l'introduction qui vient et qui lui va aussi exprimer son discours. Cet ami s'appelle Eliou, plutôt une connaissance, il n'est pas décrit comme un ami direct, et celui-ci soutient d'emblée l'argumentaire que Dieu est juste et dirige le monde avec justice et qu'il n'a aucun compte à rendre à Job. Si on lit Job 33, « En cela, tu n'as pas raison. Laisse-moi te le dire, car Dieu est bien plus grand que l'homme. Pourquoi lui ferais-tu un procès ? Il n'a de compte à rendre pour aucun de ses actes. » Ici, dans l'introduction de son discours, il dit « On peut comprendre que tu es en détresse, que tu souffres, mais ne t'en prends pas à Dieu pour autant. Il a ses raisons, et peut-être pose-lui la question de pourquoi, et peut-être qu'il te répondra. » Et quand on suit son argumentaire, il va dire que, bah, dans certains cas, Dieu aussi peut se servir de la souffrance pour enseigner quelque chose, pour faire comprendre à la personne qui souffre, bah, peut-être qu'il a quelque chose à apprendre et à changer de vie. Et donc la conclusion, c'est peut-être que Job souffre pour apprendre quelque chose. Il va le dire en Job 36, versets 10 à 12. Il ouvre leurs oreilles aux avertissements et il leur dit « Détournez-vous du mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur et leurs années s'achèvent dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups des javelots et ils expieront, faute d'avoir reçu la connaissance. » Le discours d'Élu, en tout cas, tient bon, mais on note que Job ne lui répond pas. Deux explications possibles, peut-être parce que Job, après avoir bataillé avec ses amis, déjà n'en peut plus et n'a pas envie de répondre, et il attend une réponse de Dieu directement, mais aussi peut-être que ça ne répond pas directement à sa propre question. En effet, Dieu peut se servir des souffrances pour nous faire grandir, et généralement ceux qui souffrent dans la Bible, à la fin, s'en sortent grandis, ils ont appris quelque chose de plus, ils savent faire confiance à Dieu, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que cette souffrance est venue, pourquoi est-ce qu'elle est là. C'est Dieu se sert d'une souffrance déjà existante pour faire le bien, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue à la base? Pourquoi est-ce qu'elle est présente? Et ça, Job n'a toujours pas cette réponse à ce moment-là. Ne voyant qu'il n'a toujours pas de réponse et que ça ne lui plaît pas trop, cette fois-ci, c'est le grand patron qui vient lui parler. Cette fois-ci, c'est directement l'Éternel qui descend et qui vient lui parler. Et on se dit, ah, c'est bien, soit on va avoir de l'action, soit on va avoir des réponses. Si on commence à lire les passages qui sont au début, en Job 38, donc l'intervention de l'Éternel, Dieu, déjà, calme un peu la situation et essaye de lui montrer comme quoi c'est vraiment lui qui dirige ici. Donc Job 38, versets 1 à 3. « Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, « Qui donc obscurcit mes desseins et par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te poser des questions et tu m'enseigneras. » On se dit donc que, par ces questions, on va bien avoir au bout d'un moment une réponse de pourquoi est-ce que Job souffre-t-il injustement. Mais la réponse de Dieu est un peu bizarre. On se demande qu'il pourrait être des questions sur sa vie. Finalement, Dieu lui va lui dire « Bah, tu trouves que je suis injuste, que je ne dirige pas le monde avec justice, mais si c'est le cas, explique-moi comment est-ce que j'ai fait pour créer le monde, pour maîtriser les éléments naturels comme la mer ou le vent. » Est-ce que tu es capable de m'expliquer comment est-ce que fonctionnent les astres et les constellations? Est-ce que tu es capable de m'expliquer comment marche la météo? Est-ce que tu es capable de me montrer comment fonctionne le règne animal? Comment est-ce que les biches mettent bas? Comment est-ce que certains vont faire pour chasser? Est-ce que tu es capable de m'expliquer tout cela? Et au fur et à mesure de ces questions, qui sont très longues, ça dure 3 chapitres quasiment, Job en fait se fait de plus en plus petit et se dit « mais en fait, moi j'ai aucune idée de tout ça ». Comment est-ce que moi, je peux arriver à imaginer l'immensité de cette connaissance? Dieu est bien trop grand pour que je puisse vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la justice de Dieu et comment est-ce qu'elle fonctionne. Il va terminer sur des questions sur le Béhémoth et le Léviathan, c'est l'hippopotame et le crocodile, mais personnifié un peu, plutôt une sorte de métaphore. Dans l'Antiquité, c'est un peu synonyme de deux grosses créatures qui sont capables de détruire tout sur leur passage. Et pourtant, dans le discours, Dieu leur dit « Mais en fait, je les ai créés à mon image, je les ai quand même créés, et même si elles apportent le mal, je sais pourquoi est-ce qu'elles le font. » Et donc, dans tout ça, finalement, on commence à se poser la question, mais en fait, Job, ici, il se rend compte qu'il est vraiment tout petit par rapport à Dieu. Et ça, il le reconnaît très bien. Si je vais peut-être prendre parallèle vers un film, ceux qui connaissent le film Bruce Tout-Puissant, qui est sorti en 2003. Ici, c'est un personnage qui n'a que des galères dans sa vie, qui au bout d'un moment, dans ses prières, on vient à accuser Dieu. Une des citations du film, c'est « Il y a quelqu'un ici qui ne fait pas son boulot, et c'est toi. » Et Dieu, au bout d'un moment, qui est Morgan Freeman ici, va l'inviter et lui, va lui dire « Bah écoute, si tu penses pouvoir faire mieux que moi, tente ta chance. » Et alors bon, ça reste un film, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais la conclusion, c'est que le personnage se rend compte que, bah oui, en fait, Nous, on peut même imaginer, enfin, on ne peut pas imaginer ce que Dieu fait, que sa puissance est infinie, que sa sagesse est infinie, et que même si nous, on voulait faire le mieux du monde, on serait même incapable de savoir ce qu'il faudrait faire. Donc la conclusion un peu de ces chapitres, et l'intervention de Dieu ici, c'est de se dire que bah, tu penses que je suis injuste, mais Dieu va répondre, mais en fait, tu n'es même pas capable de faire cette déclaration, parce que tu n'as aucune idée de ce qui est juste ou pas. Qui es-tu pour penser pouvoir porter de telles accusations ? Qui es-tu pour pouvoir imaginer ce que c'est la justice ou pas ? Et là, on touche un peu à un point essentiel du texte, c'est qu'on pense s'imaginer ce qui est bon et ce qui est mal. On pense s'imaginer ce que c'est la justice et comment est-ce que Dieu devrait régner sur le monde, alors qu'en fait, il n'y a que Dieu qui sait. Et même si ça nous concerne un coup personnellement que c'est injuste, en fait, on se rend compte que bah, pour nous, ça l'est. Peut-être que Dieu voit un plan plus large, qu'il n'est pas capable de nous transmettre l'essence derrière et qu'on n'est pas capable d'en comprendre la portée. On arrive assez rapidement à l'épilogue. Conclusion de ce chapitre, où, dans un premier temps, Job va s'humilier devant Dieu, donc les versets 5 à 6 du chapitre 42. « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alors, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » La poussière et la cendre, ici, souvent, c'est des coutumes pour dire « je veux vraiment m'humilier au plus bas possible en me roulant dans la cendre. » Ensuite, c'est Dieu qui va parler, notamment à ses premiers amis, les trois premiers qui l'ont accablé en lui disant « essaie de te repentir, trouve ce qui ne va pas, tu as sûrement fait quelque chose de mal. » Il va leur dire que bah, non, ils avaient un raisonnement faussé. Donc Job 42, verset 7. « Après avoir dit ces choses à Job, l'Éternel s'adressa à Eliphaz de Théman et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi correctement. » Et on termine avec la restauration de Job, Job qui est guéri, et Dieu va le bénir richement. Et il va récupérer le double de toute sa fortune, et donc on trouve ça dans les versets 12 à 13. « L'Éternel bénit le reste de la vie de Job, plus que la première partie, et bien qu'il posséda 14 000 moutons et chèvres, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et d'ânes, et il eut aussi 7 fils et 3 filles. » Ça vous convainc comme conclusion ? Parce que finalement, je vous ai dit de garder une question dans la tête. En fait, on ne répond pas à la question, finalement, ici. C'est quoi la réponse à la question ? Pourquoi Job doit-il souffrir injustement ? Même si maintenant, il y a un changement à la fin, et que c'est tout bien, Job, c'est parfait, il est de nouveau heureux, il a des enfants, il a plein de richesses, etc. On n'a pas répondu à la question, pourquoi est-ce qu'il a dû souffrir au milieu ? Pourquoi est-ce que la souffrance est obligatoire ? Si on déroule un peu les arguments qu'on avait dans ce livre, on pourrait se dire, bah, peut-être que Dieu ne serait pas si puissant que ça, finalement, que Dieu, en fait, il n'a pas le contrôle sur le monde, et que bah, la souffrance arrive ici, et qu'il ne sait pas comment, il ne sait pas quoi en faire. A priori, ce n'est pas la bonne réponse. Déjà, Job, lui, ne le nie pas. Il dit clairement qu'il sait que c'est Dieu qui lui envoie ses souffrances. Et dans tout le texte, aucun des personnages ne nie la puissance de Dieu. Ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas. Je vais vous relire. C'est dans Job 27, versets 2 à 5. « Par le Dieu vivant qui refuse... Pardon, je me suis trompé dans les... J'oublie cette citation, désolé. Mais en tout cas, il y a plusieurs citations où clairement, quand il parle de sa souffrance, Job dit clairement « Mais je sais que c'est toi qui m'envoies ces souffrances, pourquoi me fais-tu souffrir ?» Et donc, il ne nie pas ici la puissance de Dieu, il pose plutôt la question « Pourquoi est-ce que tu n'agis pas ?» Voilà, je l'ai retrouvé. C'est donc dès le début, dans Job 1, verset 21, une fois qu'il a eu toutes ses pertes, la première chose qu'il dit, c'est « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Que l'Éternel soit béni. Il dit clairement ici, bah, je sais que c'est toi qui as repris tes biens. Mais comme dit, on ne répond pas à la question, pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Si ce n'est pas ça, on peut continuer, on peut dire peut-être que Job, lui, aurait fait quelque chose de mal, qu'il aurait commis une faute et qu'il est en train de le punir. Mais clairement, ici, c'est de nouveau pas le cas. En introduction, Dieu dit clairement à l'accusateur, « Regarde, t'as vu que Job, comme il est intègre, comme il est parfait ?» Pas parfait, mais vous comprenez, hein. Il est intègre, il est droit, il pense à moi, il ne commet aucune faute. Donc c'est pas une punition, Job était intègre à ce moment-là. Et même à la fin, quand Dieu reparle à ses trois amis qui l'ont accusé, Dieu réprimande ses amis en disant, « Mais non, en fait, votre raisonnement était trop simpliste, c'est pas parce qu'il y a de la souffrance que c'est forcément une punition. » C'est toujours pas ça, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que Dieu voulait tester Job? Est-ce que c'était un espèce de test pour dire, écoute, voilà, je vais te faire souffrir, si maintenant tu tiens bon, parfait, t'as gagné un niveau, je te donnerai deux fois plus de richesse, par contre, si maintenant tu loupes, je t'oublierai et je passerai au serviteur suivant. Clairement, c'est pas ça non plus, ça ne marche pas ici. Notamment, on pense généralement en lisant ce texte, en lisant d'entrée qu'on parle de l'accusateur, donc la synonyme ici de Satan qui vient dire, faisons un pari sur Job et on verra qui est-ce qui gagne. Mais il n'y a que le lecteur qui le sait. Dans toute la lecture du livre, jamais Job n'est au courant de cette discussion entre Dieu et l'accusateur. Et quand ils discutent enfin, si c'était juste ça la réponse en disant que tu étais dans un test, pourquoi Dieu ne lui a pas dit ? Ils ont discuté ensemble, donc a priori c'est pas ça, ce n'est pas un simple test. Et surtout on s'imagine mal finalement ici dire à la fin... Dieu dire à la fin, bien joué, votre prochaine mission, si vous l'acceptez, sera de... et là, on essaie de augmenter le degré de la difficulté. C'est pas ça non plus. Même si on pourrait se dire, à la fin, il a quand même une récompense, Job. Mais là, c'est plus une espèce de cadeau que Dieu lui fait. C'est pas une récompense pour avoir survécu à cette souffrance, c'est plus que Dieu est bon et que Dieu veut partager des dons quand il peut le faire. Ok, alors... Dernière option qu'on a dans le livre, est-ce que Dieu voulait enseigner Job ? Est-ce que Job avait quelque chose à comprendre de ce passage ? Alors oui, mais non. Oui, parce que forcément, à la fin, il a appris à connaître Dieu, c'est ce qu'il dit dans la conclusion. Je te connaissais, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais ça, c'est une explication qui est donnée par Eliou, donc le quatrième intervenant, le quatrième ami ou connaissance qui est venu parler à Job. Mais celui-ci n'est pas recité par Dieu dans la conclusion et n'est plus jamais parlé après. Donc c'est probablement un argument qui est vrai, mais qui ne correspond pas à la situation de Job ici. Et dans tous les cas, même si ça expliquerait comment est-ce que Dieu se sert des souffrances pour faire grandir les gens, ça n'explique pas pourquoi est-ce que la souffrance est présente, pourquoi est-ce qu'elle existe, pourquoi est-ce que Job a dû la subir. Peut-être en fait que dans toute cette lecture, on déduit que il n'y a peut-être pas de réponse. Et c'est difficile à entendre, après avoir lu 42 chapitres de Job qui parlent de souffrance et d'argumentaire, mais si on relit la discussion, le discours que Dieu donne, quand Job lui pose la question « Pourquoi est-ce que je souffre ?», il ne répond pas « Tu souffres parce que ?», il lui dit « J'ai créé la terre, j'ai créé les astres, j'ai créé la météo, j'ai créé les éléments naturels, j'ai créé la nature, j'ai créé l'homme, et il s'arrête là. Il ne dit pas pourquoi est-ce que les personnes sont censées souffrir. La réponse un peu, c'est oui, je sais. Et c'est compliqué à avaler, mais Job l'a compris dans sa conclusion, et c'est pour ça qu'il rend grâce à Dieu, il dit, maintenant, je vais juste te faire confiance. Tu sais mes souffrances, je sais que c'est difficile, et moi, le premier, je comprends que c'est compliqué. Mais je comprends que tu ne me donneras probablement pas de réponse, probablement parce que je ne suis pas capable de la comprendre, pas parce que je ne suis pas en bonne position et que je suis un peu fâché, mais juste parce que Dieu a une complexité, une sagesse infinie, et que peut-être que notre vie ne nous suffit pas à ce qu'il nous explique ses plans. Je vais peut-être vous proposer aussi ce commentaire que j'avais dans la Bible, donc j'utilise la Bible du Summer 2015, et j'ai bien aimé cette conclusion dans le commentaire de texte. Trouver une raison à la souffrance injuste, ce serait lui ôter une bonne partie de son caractère scandaleux. Expliquer le mal, ce serait lui trouver une raison d'être, lui faire une place dans l'ordre des choses. Or, le mal ne s'explique pas. Il reste une injustifiable réalité qui provoque l'indignation. y a quand même quelques pistes quand même qui sont intéressantes à garder. Disons, on ne peut pas s'arrêter juste sur ça. Mais il y a quand même des pistes intéressantes qu'on peut garder pour nous remonter un peu le moral. Notamment, c'est Eliou qui le partage en disant que même si maintenant Dieu semble lui donner des souffrances, il lui dit, mais ce que tu peux faire, c'est déjà lui en parler pour lui exprimer cela. Et il le dit en Job 35, verset 14. « Cependant, bien que tu prétendes que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, tu peux compter sur lui. » Donc si on résume le livre de Job, on aurait un peu cette discussion entre Dieu et Job qui lui dit « Mais t'es injuste ?» Job va lui répondre « Mais t'es pas capable de formuler une telle explication, une telle accusation. Tu es injuste, Dieu répond, mais tu n'es pas capable de formuler une telle accusation, tu ne vois pas la complexité de ce que je sais et de comment est-ce que le monde fonctionne. Et il dit, bah, dans ce cas-là, explique au moins pourquoi est-ce que je souffre. Et il dit, je ne peux pas t'expliquer, sache juste que je sais, je te comprends et aie simplement confiance en moi. C'est un peu difficile à avaler comme pilule à la fin, je le conçois. Mais ce que Dieu est ici en train de dire, c'est que le monde n'est pas parfait. On l'a chanté avant, je l'ai noté, j'aurais dû me le noter, mais il y a plusieurs chants, parfois on dit, bah oui, il y a de la souffrance qui existe, mais ce qu'on veut faire, c'est remettre notre sort dans les mains de l'Éternel, et qu'on garde confiance sur le fait que bah, lui se soucie de cela. On veut parfois avoir des réponses à nos questions théoriques sur pourquoi la souffrance, pourquoi est-ce qu'on s'est fait cambrioler. Pourquoi est-ce que tel ami proche ou tel membre de la famille est décédé? Pourquoi est-ce que y a la famine dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a 380 millions de chrétiens persécutés? Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre qui traîne encore et toujours sur notre monde? Pourquoi est-ce que une politique un peu abusive existe? On a plein de questions théoriques comme cela, et Dieu nous dit, mais je ne veux pas te répondre à celle-là, parce que c'est des questions théoriques. Moi, ce que je te propose derrière, plutôt, c'est une réponse pratique. Partage ta souffrance, dis-moi ce que tu ressens, et aie confiance sur le fait que moi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un cadeau à te donner, et je ne t'oublie pas, je pense à toi. C'est une piste aussi qui peut être donnée, c'est le fait que Job, lui, à ce moment-là, n'avait pas encore tout le tableau. On est dans l'Ancien Testament, et Dieu est en train de lui dire, je ne peux pas te répondre, mais j'ai quelque chose dans les cartons. J'ai un truc, ça va faire du bruit, ça se passera quelque part aux alentours de l'an 0, enfin, plutôt 33 après. Et oui, tu vas me poser plein de questions sur pourquoi la souffrance, etc. Ça, ça sera réglé le jour où je régnerai totalement sur cette terre et où Jésus reviendra. Mais en attendant, sache que tu as quelqu'un qui débarque, qui s'appelle Jésus, qui est aussi appelé le Consolateur, en qui tu pourras partager tes fardeaux, en qui tu vas pouvoir nouer une relation pour que tu puisses aussi t'exprimer et dire ce que tu ne comprends pas, comment est-ce que tu peux grandir avec lui, que cette même personne aussi va être ton avocat auprès de Dieu et va pouvoir lui partager tes peines et tes souffrances. Et tout ça, finalement, bah, ça sera vraiment le sujet de ce que vous aurez le week-end prochain. Je vais terminer ici en juste citant quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une série de vidéos qui s'appelle The Bible Project sur YouTube, qui est très très bien faite. Je m'en suis servi notamment pour cela, et parfois j'avais des phrases où je me dis, ils l'ont tellement bien expliqué, je ne sais pas comment le reformuler avec mes mots pour que ce soit encore mieux. Donc parfois je me suis presque dit, mais à quel point j'ai besoin de parler, j'aurais pu juste présenter la vidéo. Généralement ce qu'ils font, c'est une synthèse par livre et donnent un peu une explication de ce que c'est. C'est les deux premières images que je mets, Job avec un espèce de grand tableau qui dessine devant vous comme un enseignant le ferait. Et aussi, ils refont plus en longueur que ce que moi j'ai pu vous faire. Comment est-ce que Job complète justement ces trois livres de sagesse? Donc, ce que je vous disais en introduction, le livre des Proverbes qui lui donne des grandes lignes directrices qui vont dire, bah, le gentil, s'il est gentil, il va recevoir des bénédictions. Le méchant, s'il se vautre dans le péché, aura des malédictions. L'Ecclésiaste qui va compléter ce livre des Proverbes en disant que bah, finalement, c'est des grands principes théoriques, mais parfois, la vie fait qu'il y a des aléas et que bah, ce n'est pas toujours le gentil qui reçoit les bénédictions et que parfois, on est amené à souffrir. mais que dans tous les cas, Dieu reste aux commandes, Dieu est bon, mais juste que si on veut essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, bah c'est comme de la fumée. Si on essaie de l'attraper, on comprend qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le livre de Job qui donne cette conclusion pratique derrière, en disant bah, c'est une personne qui souffre, mais Dieu lui parle à la fin, elle vient quand même auprès de lui, et il comprend que bah, je peux me remettre à Dieu, et que Dieu fait des cadeaux, et est prêt à nous aider à vivre et à aller de l'avant. Je vais terminer par prier. Seigneur, je te remercie parce que dans tous les cas, je veux croire que tu restes un Dieu bon, que tu as souci de ce qu'on vit au quotidien, que ce n'est pas toujours facile, mais tu ne nous as pas promis non plus de vie facile. Mais je sais ce que tu nous as promis, c'est que tu seras avec nous jour après jour, qu'on pourra toujours se tourner vers toi pour pouvoir nous partager nos peines, nos craintes, nos peurs, et que toi, tu veux nous combler de tes bénédictions et de tes dons si on s'approche près de toi. Et je veux m'attacher à cela, à ton amour, et je veux te remercier aussi pour la venue de Jésus que tu nous as envoyé. Amen.